Lecture à propos. Semmelweis de Louis-Ferdinand Céline. Extrait choisi, lu et présenté par André Dussolier. Réalisation, Pascal Deux.
Au moment où, face au coronavirus, on assiste aux débats médicaux les plus virulents, je n'ai pu m'empêcher de penser à l'histoire du docteur Semmelweis, médecin hongrois qui, en 1846, s'attaqua aux causes de la fièvre puerpérale qui touchait les femmes après leur accouchement et provoquait leur mort dans des proportions considérables. Louis-Ferdinand Céline, alors âgé de 30 ans, fit de l'histoire de ce médecin le sujet de sa thèse qu'il soutint devant la faculté de médecine en 1924. À presque deux siècles de distance, il est surprenant de voir jusqu'où l'histoire peut se répéter. Quand la science médicale est confrontée aux intuitions des uns et au nécessaire contrôle du corps médical tout entier. La science tâtonne, s'interroge, cherche, avance, et malgré les âpres combats qui opposent les médecins entre eux, finira, avec le temps, par vaincre la maladie pour le bien de l'humanité. C'est donc l'histoire de ce médecin hongrois né en 1818 à Budapest, d'un père épicier et d'une mère jolie, infatigable, tôt mariée, qui mit au monde 8 enfants, dont Philippe Ignace Semmelweis était le 4e, que vous allez entendre, que j'ai enregistré chez moi avec les moyens du bord et dont Louis-Ferdinand Céline, à travers quelques pages choisies, commence ainsi le récit. L'épicerie marchait bien. Les petits Semmelweis furent bien nourris. Philippe eut un jour 4 ans, puis 10. À tout le monde, en tout lieu, il paraissait heureux. Sauf à l'école. Il n'aimait point l'école. Et par cette aversion, désespérait son père. C'est sans entrain qu'au lycée de Pest, où son père le fait admettre, il apprend les règles du latin, sans grand succès non plus, si on s'en rapporte au palmarès de cette époque. Les vues de l'épicier étaient ambitieuses. Ne voulait-il pas que Philippe devint auditeur à l'armée de François d'Autriche? Mais il y a loin du désir d'un père au destin de son fils. Tant bien que mal, Philippe termina ses premières études et le 4 novembre 1837, à l'âge de 19 ans, il quittait Budapest pour aller acquérir à Vienne ses titres de droit autrichien. Mais le droit ne le retint pas très longtemps. Il se dirigea vers la médecine. Un jour, sans avertir son père de sa décision, il suivit un cours à l'hôpital. Puis une autopsie dans une cave, quand la science interroge un cadavre au couteau. Ensuite, avec les autres, faisant cercle autour du lit d'un malade, il put entendre Skoda, le grand médecin de l'époque, s'exprimer sur l'état, l'avenir de ce fiévreux. Skoda, c'était un homme de tout premier plan, jouissant d'un grand renom qu'il méritait. Semmelweis devint assez vite son élève. Par l'enseignement de Skoda, Semmelweis apprit ce que peut l'esprit clinique dans la nature, et s'il ne fut jamais dans ce domaine aussi subtil que son maître, il devait aller beaucoup plus loin dans la vérité. Un autre homme, moins répandu que Skoda, moins bruyant que lui surtout, mais dont l'œuvre eut une portée bien plus grande, enrichit la pensée de Semmelweis d'une méthode scientifique indispensable. Ce maître fut Rokitansky. Rokitansky veut lui faire entreprendre de longues recherches sur les vicissitudes du tissu hépatique. Skoda tente de l'appliquer à ses fignolages stéthoscopiques dont il avait le talent. Semmelweis s'y refuse. Ce qu'on fait à la faculté lui paraît à présent un peu subtil, théorique, inutile, pour tout dire, du point de vue des malades auxquels il veut penser avant tout. L'essentiel pour nous est de savoir qu'il fut reçu docteur en médecine au printemps de 1844. Attendant dans l'ombre de Skoda, il y serait encore demeuré, sans doute, si Rokitansky, que ses travaux du moment sur l'infection amenés au contact quotidien de la chirurgie, n'avait entraîné Semmelweis et son enthousiasme de guérisseur dans cette carrière où tout était alors ignorance et désastre. Il faut en effet se souvenir qu'avant Pasteur, plus de 9 opérations sur 10 en moyenne se terminaient dans la mort ou par l'infection, qui n'était qu'une mort lente et bien plus cruelle. Après un brillant concours, Semmelweis est nommé maître en chirurgie. Mais aucune vacance ne se dessinant dans les chairs possibles, il s'impatiente. Puisque la chirurgie n'offre aucune disponibilité, c'est du côté de l'accouchement qu'on se tourne. Klein réclame un assistant. On lui offre Semmelweis. Mais celui-ci n'avait pas les diplômes voulus. Dans l'espace de 2 mois, il passe toutes les épreuves nécessaires. Reçu docteur en obstétrique le 10 janvier 1846, il est nommé professeur assistant de Klein le 27 février de la même année. Désormais, il va faire partie des cadres de l'Hospice général de Vienne, dont le professeur Klein dirigeait une des maternités. En cette année 1846, 2 pavillons d'accouchement, identiques de construction, contigus, s'élevaient au milieu des jardins de l'Hospice général de Vienne. Le professeur Klein dirigeait l'un d'eux. L'autre, depuis bientôt 4 années, se trouvait placé sous la direction du professeur Bartsch. Ce fut par ces jardins couverts de neige, soumis au givre d'un vent implacable, que Semmelweis dut se rendre à son nouveau service dans la matinée du 27 février. Il dut procéder aux admissions des femmes enceintes venues des quartiers populeux de la ville. Ne se résigner évidemment à l'accouchement dans un hôpital d'aussi triste renommée que celle dont la condition était absolument misérable. De leurs anxieuses confidences, Semmelweis apprit que si les risques de fièvre puerpérale étaient chez Bartsch considérables, chez Klein, et pendant certaines périodes, les risques de mort équivalaient à une certitude. Une femme, raconta-t-il plus tard à propos de cette première journée, est prise brusquement vers 5 heures de l'après-midi de douleur dans la rue. Elle n'a pas de domicile, se hâte vers l'hôpital et comprend aussitôt qu'elle arrive trop tard. La voici suppliante, implorant qu'on la laisse entrer chez Bartsch au nom de sa vie qu'elle demande pour ses autres enfants. On lui refuse cette faveur. Elle n'est pas seule. À partir de ce moment, cette salle d'admission devient un bûcher d'ardente désolation où 20 familles sanglotent, supplient, entraînant souvent et par force la femme ou la mère qu'ils amenaient. Ils préfèrent presque toujours la faire accoucher dans la rue où les dangers sont vraiment beaucoup moindres. Chez Klein ne vont en définitive que celles qui parviennent à ces derniers instants sans argent, sans soutien, pas même celui d'un bras pour les chasser de ce lieu maudit. Pour la plupart, ce sont les êtres les plus accablés, les plus réprouvés par les mœurs intransigeantes de l'époque. Ce sont presque toutes des filles mères. C'est alors que des commissions furent nommées. Elles réunirent toujours des savants responsables. Essayons d'estimer leurs efforts. Ils furent 20, comme à l'habitude. Pendant la recrudescence puerpérale de 1842 chez Klein, lorsque 27% des accouchés succombèrent en août, 29% en octobre, et qu'on atteignit même la moyenne de 33 décès sur 100 accouchements dans le mois de décembre. En 1846, tout est contradictoire, incohérent. Semmelweis cherche dans les rapports de la commission impériale. Pas un seul des remèdes éventuels qu'elle indique et dont on tente l'application pratique ne donne un résultat. Semmelweis est donc livré à ses propres ressources. C'est alors qu'il procède par élimination successive du passé, enlevant erreurs et mensonges qui recouvrent la vérité les uns après les autres, les rejetant au loin comme des feuilles mortes qui étouffaient la fleur qu'il cherche. Il marquera d'une pierre initiale et une fois pour toutes le point de départ de son esprit vers la découverte. On meurt plus chez Klein que chez Bartsch. Tout le monde avant lui l'avait remarqué. Personne ne s'y était arrêté aussi formellement. Lui juge que c'est le seul fait acquis dans le cours de cette tragédie où tout est obscur. C'est toujours de là qu'il partira, et c'est encore là que toujours il reviendra sur lui-même. Pourtant, 100 pistes qu'on lui propose s'offrent pour l'égarer. Il s'y refuse. Enfin, quand à force de persuasion et souvent hélas de brutalité, il a fini par soumettre ceux qui veulent ou feignent de vouloir l'aider à ce point de départ, les solutions affluent. On rivalise autour de lui d'ingéniosité, en réalité d'orgueil. Si on meurt moins chez Bartsch, prétendent ces bons esprits dans leur crainte d'être dépassés, c'est que chez lui le toucher est exclusivement pratiqué par des élèves sages-femmes. Alors que chez Klein, les étudiants procèdent à la même manœuvre chez les femmes enceintes, sans aucune douceur, et provoquent par leur brutalité une inflammation fatale. On tenait alors fermement à l'inflammation comme étiologie de la fièvre puerpérale. Semmelweis saisit aussitôt l'occasion offerte par ses émules et passe aux déductions pratiques. Les sages-femmes, dont le stage s'accomplissait chez Bartsch, sont échangées avec les étudiants de Klein. La mort suit les étudiants. Les statistiques de Bartsch deviennent angoissantes et Bartsch, affolé, renvoie les étudiants d'où ils venaient. Semmelweis sait à présent que les étudiants jouent un rôle de première importance dans ce désastre. C'est beaucoup. C'est ce qu'il faut pour qu'un déluge de conseils s'abatte sur lui. Même Klein, qui commence à s'inquiéter des révolutions que son assistant veut provoquer dans son fief maudit, Klein, dont l'activité obstétricale s'entoure d'une réputation tragique dans l'Autriche tout entière, tente alors d'expliquer que ce sont les étudiants étrangers qui propagent la fièvre puerpérale. Suivant le désir du médecin-chef, des expulsions sont ordonnées et le nombre des étudiants est ramené de 42 à 20 par le départ des étrangers. À la suite de cette mesure, le taux de la mortalité s'abaisse pendant quelques semaines. Qu'on veuille bien songer à ce qu'une petite amélioration de cette sorte peut être déroutante pour celui qui observe avec passion la surface de l'inconnu. Que l'esprit du chercheur s'y arrête plus qu'il ne faut, qu'il se perde en inutiles déductions. Et voilà le pauvre chariot de la recherche, hésitant, chaotique, embourbé pour longtemps, pour toujours peut-être. Ce n'est pas le cas pour Semmelweis qui a du souffle, Dieu merci. Il franchit ses insignifiances, il veut mieux, il veut voir absolument clair, il le veut, avec trop de violence. Son enthousiasme n'est pas nuancé. Par son insuffisance de forme, il se fait accuser d'intolérance, d'irrespect à l'égard de Klein. C'est vrai, hélas. Certains trouvent son orgueil insupportable. Dans son ardeur à la recherche, il s'est retranché de la vie courante. Il l'ignore. Il n'existe plus que passionnellement, avec une telle force, une telle fixité, qu'il revient sans jamais en démordre au seul fait de prouver sensible, c'est qu'on meurt plus chez Klein avec les étudiants que chez Bartsch avec les sages-femmes. Sans cesse, il va répétant à tous ceux qui veulent ou ne veulent pas l'entendre les causes cosmiques, telluriques, hygrométriques qu'on invoque à propos de puerpéral ne sauraient avoir de valeur puisqu'on meurt plus chez Klein que chez Bartsch, à l'hôpital qu'en ville, où pourtant les conditions cosmiques, telluriques et tout ce qu'on voudra sont bien les mêmes. La cause que je cherche est dans notre clinique et nulle part ailleurs. C'est ce qu'il dit à Markuzowski le soir du 14 juillet 1846. Cependant, des sentiments humains hostiles se sont, sans qu'il s'en doute, ou parce qu'il les a méprisés, déchaînés contre lui. Klein ne lui parle plus. Tant en l'espace de 5 mois, leurs rapports se sont aigris. À l'occasion d'une réunion de professeurs, il lui fait dire, peut-être pour l'égarer, que la cause qu'il cherche aux épidémies puerpérales doit être dans l'ancienneté des locaux. Semmelweis aussitôt lui fait répondre, et d'ailleurs sans ménagement, que dans la clinique de Boers, la plus ancienne de Vienne, on meurt assurément beaucoup moins que dans la sienne. Il fallait s'attendre à ce que Klein se dressât définitivement sous le coup de cette nouvelle insolence. Désormais, il ne cherchera que la première occasion pour faire révoquer son assistant. Semmelweis s'en est averti. Aussi toutes ces nuits, depuis ce moment jusqu'à son départ, il les passa dans la clinique, au chevet des accouchés, et surtout auprès des mourantes, pressentant que ses jours étaient comptés dans l'hôpital. Il voit aussi que ses ennemis, de jour en jour plus nombreux, se moquent de ses efforts et qu'il lui faut aboutir absolument, à tout prix, vite, ou bien retomber plus bas dans le troupeau passif où lui ne peut pas vivre. Les jours, les nuits se succèdent, horribles. Les nuits surtout. À Markuzovski qui vient le voir, il avoue qu'il ne peut plus dormir. Que le son désespérant de la clochette qui précède le prêtre apportant le viatique est entré pour toujours dans la paix de son âme. Que toutes les horreurs dont il est journellement l'impuissant témoin lui rendent la vie impossible. Qu'il ne peut demeurer dans cet état présent où tout est obscur, où seul est précis le nombre des morts. Et tout le monde l'entend, cette clochette. On va donc l'accuser à son tour, que n'accuse-t-on point, d'entretenir chez les femmes en couche un état d'anxiété qui les prédispose aux atteintes de la fièvre puerpérale. Temporairement, on supprime la sonnette. Le prêtre fait un détour pour se rendre au chevet des mourantes. Après celle-ci, une autre subtilité autorise à nouveau quelques espoirs. N'a-t-on pas remarqué que les femmes non mariées, les filles mères, sont plus déprimées que les autres aux approches de l'accouchement ? Voilà ! Proclament les psychologues une excellente raison. Un mois ou deux passèrent encore, puis ce fut au tour du froid. Après la chaleur, après la diète, après la lune, d'être coupable. Pendant que se succédaient ces ridicules et peu sincères tentatives, Semmelweis observait que les femmes, qui par surprise accouchaient dans la rue et ne venaient qu'ensuite chez Klein, même au milieu de ces temps dits d'épidémie, étaient presque constamment épargnées. Sachant déjà par l'expérience précédente que sur les étudiants spécialement s'étendait une malédiction, il observa ces derniers de très près. De plus en plus près, dans toutes leurs allées et venues, dans tous leurs gestes. En même temps, il se souvint, et d'autant mieux qu'il avait longtemps vécu chez Rokitansky au milieu des dissections, de ces coupures cadavériques, souvent mortelles, que se font ces mêmes étudiants avec des instruments souillés. Ses idées se précipitent. Dans les jours qui suivent, il demande à Rokitansky de lui adjoindre le docteur Lautner, afin qu'il puisse pratiquer à ses côtés des autopsies et des coupes de tissus cadavériques. À cet instant, il est si près de la vérité qu'il est en train de la circonscrire. Il en est encore plus près quand il imagine de faire pratiquer le lavage des mains à tous les étudiants avant qu'ils n'abordent les femmes enceintes. On se demande le pourquoi de cette mesure. Elle ne répondait à rien dans l'esprit scientifique de l'époque. C'était une pure création. Toujours est-il qu'il fit disposer des lavabos aux portes de la clinique et donna l'ordre aux étudiants de se nettoyer soigneusement les mains préalablement à toute investigation ou manœuvre sur une parturiente. Semmelweis entretint Klein dès son arrivée à la clinique de la mesure de propreté qu'il voulait faire prendre par les étudiants. Il lui demanda aussi de s'y soumettre, personnellement. En quels termes la proposition fut-elle faite ? Évidemment, Klein demanda une explication de ce lavage préalable qui lui parut a priori tout à fait ridicule. Sans doute songea-t-il même à une vexation. Semmelweis, d'autre part, était bien incapable de lui fournir une réponse plausible ou une théorie convenable, puisqu'il voulait tenter le hasard. Klein refusa net. Semmelweis, énervé par tant de veillées épuisantes, s'emporta, oubliant le respect qu'il devait, malgré tout, au plus mauvais de ses maîtres. Certes, l'occasion était trop belle pour que Klein ne s'en saisît pas le lendemain, 20 octobre 1846. Semmelweis fut brutalement révoqué. Dans les deux pavillons, la fièvre, un instant menacée, triomphe. Impunément, elle tue, comme elle veut, où elle veut, quand elle veut. À Vienne, 28% en novembre, 40% en janvier. La ronde s'étend tout autour du monde. La mort conduit la danse. Clochette autour d'elle. À Paris, chez Dubois, 18%. 26% chez Schuld, à Berlin. Chez Simpson, 22%. À Turin, sur 100 accouchés, 32 meurent. Bien qu'on dût s'y attendre, cet incident provoqua une grande émotion dans les milieux médicaux, et même à la cour, d'où vinrent des ordres afin qu'on procédât à une enquête sur les circonstances de cette révocation. Du fait de ses fonctions à l'hôpital général dont il était le médecin-chef, Skoda mit en œuvre toutes les ressources de son influence à la cour pour redonner à Semmelweis la place qu'il avait perdue. Seulement, n'est-il pas vrai qu'on ne conspire avec succès que pour ceux qui ne sont pas là? On éloigna donc l'impétueux Philippe dans un voyage d'une certaine durée. Quand il fallut choisir un endroit, Venise était la mode. Après 2 mois passés dans ce grand jardin de toutes les pierres précieuses, 2 mois de beauté pénétrante, Semmelweis rentra à Vienne. Quelques heures seulement se sont écoulées quand la nouvelle de la mort d'un ami frappe Semmelweis. Semblable cruauté du sort n'était point normale dans sa vie. Kolechka, le professeur d'anatomie, venait de succomber la veille aux suites d'une piqûre qu'il s'était faite pendant une dissection. Kolechka avait toujours eu pour Semmelweis une sympathie très vive et très sincère. Sa perte, en l'isolant davantage, lui fut étrangement douloureuse. Cependant, rien de ce qui l'atteignait, aussi bien joie que chagrin, ne devait être inutile à l'élaboration de son œuvre profonde. Il avait accepté complètement sa vie, et toutes les forces spirituelles qu'il rencontrait sur les routes de son destin trouvaient le chemin de son âme. Quand on m'apprit la mort de ce malheureux Kolechka, j'y fus sensible à l'extrême, et quand je connus tous les détails de la maladie qu'il avait tuée, la notion d'identité de ce mal avec l'infection puerpérale dont mouraient les accouchés s'imposa si brusquement à mon esprit, avec une clarté si éblouissante, que je cessai de chercher ailleurs depuis lors. Phlébite, lymphangite, péritonite, pleurésie, péricardite, méningite, tout y était. Voilà ce que je cherchais depuis toujours dans l'ombre, et rien que cela. Quand l'identité des causes de la mort de l'anatomiste Kolechka et de la fièvre puerpérale ne lui parut plus douteuse, il s'avança désormais bien armé de faits précis vers ce qui était encore inconnu. Puisque, pensa-t-il, Kolechka est mort des suites d'une piqûre cadavérique, ce sont donc les exudats prélevés sur des cadavres qu'on doit incriminer dans le phénomène de la contagion. Quant aux détails de cette contagion, il pensa aussitôt les connaître. Ce sont les doigts des étudiants, souillés au cours de récentes dissections, qui vont porter les fatales particules cadavériques dans les organes génitaux des femmes enceintes et surtout au niveau du col utérin. Ces particules cadavériques infimes, dont il croyait que le simple contact suffisait entièrement à provoquer l'infection puerpérale, étaient impondérables. L'histologie ne savait pas encore les colorer avec assez de distinction pour qu'elles fussent visibles au microscope. Elles n'étaient donc décelables que par l'odeur. « Désodoriser les mains, » décida-t-il. « Tout le problème est là. Le moyen était frêle. » Mais pour mettre en pratique cette prophylaxie dont il avait l'idée, encore fallait-il qu'il eût l'accès libre dans une des maternités de la ville. Or, l'entreprise qu'il voulait tenter ressemblait trop à celle qu'il avait fait exclure de chez Klein pour qu'on songeât, malgré la grande influence de Skoda, à le réintégrer tout simplement dans son poste précédent. On ouvrit une autre porte. Gagné par l'insistance de Skoda, Bartsch, médecin-chef de la seconde maternité, finit par accueillir son protégé à titre d'assistant supplémentaire. Poursuivant alors son idée technique de désodorisation, Semmelweis fit établir une solution de chlorure de chaux avec laquelle chaque étudiant, ayant disséqué le même jour ou la veille, doit se laver soigneusement les mains avant d'effectuer toute espèce de recherche sur une femme enceinte. Dans le mois qui suivit l'application de cette mesure, la mortalité tombe à 12%. Ce résultat était bien net, mais ce n'était pas encore le triomphe définitif que désirait Semmelweis. Jusque-là, il avait eu l'esprit fixé sur la cause cadavérique de l'infection puerpérale. Cette cause lui parut désormais acquise, réelle, mais insuffisante. Il fuyait et redoutait l'à peu près. Il voulait la vérité tout entière. On eût dit pendant ces quelques semaines que la mort voulait ruser et jouer d'audace avec lui, mais ce fut lui qui gagna. Il allait toucher les microbes sans les voir. Restait encore à les détruire. Jamais on ne fit mieux. Voici les faits. Au mois de juin, entra dans le service de Bartsch une femme qu'on avait crue gravide. Semmelweis, à son tour, l'examine et découvre chez elle un cancer du col utérin. Et puis, sans songer à se laver les mains, il pratique le toucher successivement sur 5 femmes à la période de dilatation. Dans les semaines qui suivent, ces 5 femmes moururent de l'infection puerpérale typique. Le dernier voile tombe, la lumière est faite, les mains, par leur simple contact, peuvent être infectantes, écrit-il. Chacun, désormais, ayant disséqué ou non dans les jours qui précèdent, doit se soumettre à une désinfection soigneuse des mains par la solution de chlorure de chaux. Le résultat ne se fait pas attendre. Il est magnifique. Dans le mois suivant, la mortalité par puerpérale devient presque nulle. Elle s'abaisse pour la première fois au chiffre actuel des meilleures maternités du monde, 0,23%. La plus élémentaire raison ne voudrait-elle pas que l'humanité, guidée par des savants clairvoyants, se fût pour toujours débarrassée de toutes les infections qui la meurtrissaient, et tout au moins de la fièvre puerpérale dès ce mois de juin 1848? Sans doute. Mais décidément, la raison n'est qu'une toute petite force universelle, car il ne faudra pas moins de 40 ans pour que les meilleurs esprits admettent et appliquent enfin la découverte de Semmelweis. À l'hôpital général de Vienne, là où toutes les preuves étaient si faciles à faire, la découverte de Semmelweis ne connut point la fortune qu'on pourrait supposer, au contraire. Aussi étrange que cela paraisse, Klein réussit dès les premiers temps à grouper dans la faculté même un grand nombre d'adversaires résolus de la nouvelle méthode. La majorité de ses collègues, pour tout dire. 5 médecins seulement s'élèvent à la hauteur de Semmelweis. Ce sont Rokitansky, Ebra, Heller, Helm et Skoda. De suite, on les détesta. Mais la déception la plus grande, dont on s'affecta dans ce groupe courageux, devait être contenue dans les diverses réponses des professeurs étrangers qu'on avait eu à cœur de renseigner individuellement. « Nous ne doutions pas, écrit Heller, que nous allions rencontrer, loin des jalousies et des rancunes locales, une pleine approbation de ceux qui ne manqueraient pas de trouver des expériences de Semmelweis pleinement concluantes. » Hélas, que penser de ce Tylanus d'Amsterdam qui ne prit même pas la peine de répondre à la lettre de Semmelweis, non plus d'ailleurs que Schmidt de Berlin. Plus triste encore, Simpson d'Édimbourg, qui donna pourtant par sa carrière les preuves de son talent, ne comprit rien à la révolution obstétricale qui lui fut annoncée par Ebra. Il s'y déroba en quelques mots polis, vides de sens. L'inertie triomphe en Angleterre comme ailleurs, et tous ceux dont nous avons parlé jusqu'ici se contentèrent pour la plupart de mépriser la vérité qui leur était offerte. En voici d'autres, beaucoup plus ardents de sottise, Scanzoni d'abord, et Seffert de Prague ensuite, après 5 mois et demi d'expérience dans leurs cliniques respectives, déclarent publiquement que les résultats rapportés par Semmelweis ne sont nullement conformes à ce qu'ils ont observé eux-mêmes. Cette communication maudite fait évidemment la joie des partisans de Klein, qui vont prétendre, de ce fait, erroner les statistiques publiées en 1846 par Semmelweis, sinon mensongères. Toutes les jalousies, toutes les vanités déchaînées se donnent libre cours. Le personnel de l'hôpital, puis les étudiants, déclarent qu'ils sont las de ces lavages malsains aux chlorures de chaux auxquels ils jugent désormais inutile de se soumettre. Mais ces grands officiels ne furent pas qu'aveugles, malheureusement. Ils furent à la fois bruyants et menteurs, et puis surtout bêtes et méchants. Méchant pour Semmelweis, dont la santé s'effondre dans ces épreuves incroyables. Dorénavant, il ne lui sera plus possible de se montrer à l'hôpital sans être couvert d'injures, aussi bien de la part des malades que des étudiants et des infirmiers. Jamais la conscience humaine ne se couvrit d'une honte plus précise, ne descendit plus bas que durant ces mois de 1849 dans la haine pour Semmelweis. À ce moment, le scandale, extraordinaire par ses origines, atteignit une telle ampleur que le ministre se trouva contraint de révoquer pour la seconde fois Semmelweis, le 20 mars 1849. Dès le lendemain, poursuivant sa cause sur un autre théâtre, Skoda communique à l'Académie des sciences une note portant sur des résultats tout à fait concluants et absolument favorables à la théorie de Semmelweis, qu'il venait d'obtenir par l'infection puerpérale expérimentale d'un certain nombre d'animaux. Et puis Ebra, le soir même, à la Société médicale de Vienne, déclare que la découverte de Semmelweis présente un tel intérêt pour l'avenir de la chirurgie et de l'obstétrique qu'il demande qu'une commission soit aussitôt nommée pour examiner en toute impartialité les résultats obtenus par lui. Cette fois, les passions ne connaissent plus de bornes. On se conspue plus, on va même jusqu'à se battre dans l'enceinte de cette grave compagnie. Le ministre interdit alors à la commission de se réunir, en même temps qu'il ordonne à Semmelweis de quitter Vienne au plus vite. Chassé, fuyant l'Autriche, il va trouver sa ville, Budapest, en pleine effervescence électorale. En 1849, l'exercice de la médecine le fait vivre à peine. Semmelweis loge dans la chambre de la Landergasse, ruelle étroite. Pour subsister, il a dû vendre la plus grande partie de son mobilier. Les choses ne pouvaient guère aller plus médiocrement quand il fut victime au surplus de deux accidents successifs qui cette fois le terrassent. À quelques jours d'intervalle, il se casse le bras d'abord, puis la jambe gauche, dans un de ces escaliers tortueux, impossibles d'accès, qui sont de règle dans son quartier. Par ces deux fractures, il est immobilisé au lit, incapable désormais de se défendre de la faim et du froid. Ne fût-ce par le dévouement de ses quelques amis qui se sacrifièrent pour assurer sa subsistance, sans doute serait-il mort de misère, comme tant d'autres intellectuels dans le cours de cet hiver de 1848. Sous la rafale de douleur, dans l'isolement et la violence, le feu dont il est porteur demeure sous la cendre et s'éteint presque. Son passé ne lui parle plus. C'est un passé trop riche d'enthousiasme pour son cœur épuisé. Ses forces ne sont plus à la mesure de cette flamme ardente. Il a faim. Aussi longtemps que dura cette détresse, sa vie fut somnolente. Son rêve sans puissance, et pour lui qui doit rêver pour vivre, c'est presque le néant. Rien ne l'intéresse, il n'écrit plus. Ses maîtres à Vienne s'inquiètent de son sort. Peut-on songer à le faire revenir? La haine de Klein et des autres l'exclut plus que jamais des facultés autrichiennes. Un jour, à Vienne, les bruits les plus alarmants sont rapportés sur son compte. Markuszewski, après de nombreuses démarches et par l'effet de puissantes protections, est autorisé à se rendre à Budapest, ville interdite. À peine est-il arrivé qu'il se met en quête de Semmelweis. Il ne l'avait pas revu depuis 7 ans. D'abord, il ne le trouva point et ne finit par le joindre que tard dans la soirée. « Enfin, j'ai retrouvé notre meilleur ami vivant », écrit Markuszewski dans une lettre à Skoda, « mais il a tellement vieilli que je ne l'aurais reconnu qu'avec peine si sa voix ne m'avait mieux guidé que la vue dans l'ombre de sa chambre. Une grande mélancolie est marquée sur ses traits et je le crains pour toujours. » Il m'a parlé de vous et du professeur Rokitansky en termes bien affectueux. Il m'a demandé 100 détails sur votre vie et votre santé. Il ne m'a rien dit de sa gêne matérielle, trop évidente, hélas. Je suis passé muni de votre recommandation chez le professeur Burley, directeur de la maternité Saint-Roch. Celui-ci m'a donné la ferme assurance qu'il penserait à Semmelweis pour la première place d'assistant vacante dans sa clinique. Ce serait une telle justice. Semmelweis, dans les mois qui suivirent, ne fit rien de nouveau. Il n'alla même point voir Burley, qu'il y avait convié cependant par une lettre aimable. Ainsi, traînant ses jours, fuyant l'effort, il n'attendait plus rien. Quand un événement fortuit le replaça dans sa destinée. N'êtes-vous pas le docteur Semmelweis, autrefois assistant du professeur Klein? Demanda certain visiteur matinal. Alors, « j'ai un message pour vous. Un message pénible, mais en faveur de la cause que vous avez soutenue. Voici les faits. Le professeur Michaelis de Kiel s'est suicidé récemment dans des circonstances très particulières. J'étais son élève et je connaissais sa pensée. surtout celle qui l'obsédait et le conduisit au suicide. Ayant récemment assisté une de ses cousines lors de son accouchement, celle-ci succombait peu de jours plus tard par infection puerpérale. Si grande fut la douleur de Michaelis, son désespoir si affreux, qu'il fit une recherche immédiate et très approfondie de ses responsabilités dans ce malheur. Il ne devait pas tarder à se convaincre qu'il en était entièrement responsable, car dans les jours précédents, il avait précisément soigné un certain nombre de femmes atteintes de fièvre puerpérale sans prendre ensuite aucune des précautions que vous aviez indiquées et qu'il connaissait depuis longtemps. L'obsession dont il était accablé devint un jour si lancinante, si intolérable, qu'il se précipita sous un train. Semmelweis, à l'instant même, sortit de sa torpeur, comme ému par le sifflement de cette flèche qui venait de traverser son silence. Sur le champ, il va faire une visite à Burley pour lui demander de reprendre une activité obstétricale. « Vous m'êtes recommandé, dit Burley, par le professeur Skoda, et cette protection suffit à vous garantir toute ma bienveillance. Toutefois, je ne puis, dans l'état actuel de notre maternité, vous offrir un emploi que pendant les 2 mois de vacances, juillet et août. Enfin, je vous demanderai de ne plus parler à mes élèves de ces lavages de mains ou chlorures de choses. Cela nous ferait le plus grand tort. J'ai d'ailleurs longuement pensé à ces mortalités effrayantes que vous observiez jadis chez Klein, et je vais, moi, vous en donner, je crois, la raison. Klein ne purgeait pas méthodiquement ses accouchés. Ici, docile par exception, Semmelweis, pour une fois, sut se taire. Il entra donc dans son petit service intermittent, et là commença la rédaction de son livre capital, L'étiologie de la fièvre puerpérale. De tous les accoucheurs que je connais, écrivait-il alors, ce pauvre Michaelis est décidément le premier et le seul duquel je puisse dire qu'il a eu trop de conscience professionnelle. Le temps passe. En 1856, Burley meurt. Semmelweis lui succède à la direction de la maternité Saint-Roch. Il semble être libre désormais d'avoir des initiatives obstétricales. Il faut dire qu'on le croyait endormi à jamais dans la crainte ou dans son erreur. On va être bien surpris de le retrouver plus agressif encore qu'à Vienne. Toutes ces initiatives ne furent pas heureuses, celles du début surtout. Exemple. Cette lettre ouverte à tous les professeurs d'obstétrique, par laquelle il entreprit de rompre un silence de 10 années. Je voudrais bien que ma découverte se trouvât à être d'ordre physique, car on peut expliquer la lumière comme on veut, cela ne l'empêche pas d'éclairer. Elle ne dépend rien des physiciens. Ma découverte, hélas, dépend des accoucheurs. C'est tout dire. Assassins. Je les appelle tous ceux qui s'élèvent contre les règles que j'ai prescrites pour éviter la fièvre puerpérale. Contre cela, je me dresse en adversaire résolu comme on doit se dresser contre les partisans d'un crime. Pour moi, il n'est pas d'autre façon de les traiter qu'en assassins. Et tous ceux qui ont le cœur à la bonne place penseront comme moi. Ce n'est pas les maisons d'accouchement qu'il faut fermer pour faire cesser les désastres qu'on y déplore, mais ce sont les accoucheurs qu'il convient d'en faire sortir, car ce sont eux qui se comportent comme de véritables épidémies, etc. La haine soulevée par ce pamphlet ne fut que l'écho amplifié de celle dont il avait éprouvé la violence 10 ans auparavant à Vienne, à l'hôpital même, dont Semmelweis était devenu le médecin-chef. Il se découvrit tellement de bassesse, tellement de vilainie professionnelle, que ses prescriptions contre la fièvre puerpérale, volontairement, ne furent jamais observées. Il semble même qu'on l'infecta des accouchés pour l'affreuse satisfaction de lui donner tort. Une hostilité totale, comme à Vienne naguère, s'oppose dès lors à toutes ses décisions. Il ne lui reste qu'un seul ami, à la suite de cette désertion de toutes les sympathies sur lesquelles il comptait. Cet ami ne possède hélas aucun appui officiel, mais il est jeune, actif et généreux, c'est le docteur Arnett. La cause de Semmelweis l'enthousiasme. Il veut aller jusqu'à Paris pour la défendre et la faire triompher. De là, lui semble-t-il, toute idée reconnue valeureuse fait aisément son chemin dans le monde. Suivant son illusion, il voit la France comme la république des esprits aussi bien que des lois. 2 révolutions ne l'ont-elles point affirmé. Avec bien de la peine, on finit par réunir l'argent nécessaire à cet audacieux voyage. Le passeport fut encore plus difficile à obtenir. Enfin, emportant le manuscrit de l'étiologie, Arnett dut se mettre en route le 13 mars 1858. Aucun signe ne révèle à ceux qui le voient passer sur la route de Paris que ce voyageur pauvre, isolé, fils d'une nation subalterne, possède dans son bagage un rouleau d'écrits plus précieux que tous les livres secrets de toutes les Indes, qu'il est porteur d'une admirable vérité dont la simple lecture pourrait sauver chaque année des millions d'êtres humains, leur épargner d'infinies souffrances. Pour ses compagnons de diligence, c'est un voyageur pauvre, rien de plus. S'il parlait de ce qu'il sait, il ennuierait tout le monde. S'il insistait, beaucoup, on le tuerait peut-être. La bonté n'est qu'un petit courant mystique parmi les autres et dont on tolère difficilement l'indiscrétion. Au contraire, contemplez donc la guerre en marche. Rien n'est trop doré, trop bruyant, trop immodeste pour elle. La gloire du général est celle qui se comprend immédiatement. Elle est éclatante, elle est énorme, elle coûte cher. Un grand bienfaiteur paraîtra toujours, bien qu'on dise ou qu'on fasse, un peu banal, d'une beauté un peu usée, comme celle de l'eau et du soleil. L'intelligence collective est un effort surhumain. À Paris, où Arnett resta quelques semaines, l'Académie consacrait précisément entre le 23 février et le 6 juillet 1858 un certain nombre de séances à l'étude des questions de la fièvre puerpérale. Arnett ne manqua pas de s'y rendre. Il fut déçu dans ses espérances quand il comprit à quel point on voulait ignorer la vérité dans ce milieu. Et surtout, quand il eut entendu le plus célèbre accoucheur de son temps, Dubois, résumer l'opinion de la savante assemblée au cours d'une regrettable communication. Ah, cette théorie de Semmelweis, qui, on s'en souvient peut-être, provoqua de si violentes polémiques dans les milieux obstétricaux, tant en Autriche que dans les autres pays, semble être aujourd'hui tout à fait abandonnée, et même dans l'école où on la professa jadis. Peut-être contenait-elle quelques bons principes, mais son application minutieuse présentait de telles difficultés qu'il eût fallu, à Paris par exemple, mettre en quarantaine le personnel des hôpitaux pendant une grande partie de l'année. Et cela d'ailleurs pour un résultat tout à fait problématique. En rentrant à Budapest, Arnett, découragé, ne sut convaincre Semmelweis de ce qu'il avait vu, entendu, et surtout de l'inanité de tout effort prochain. Arnett était raisonnable, Semmelweis ne l'était plus. Estimer, prévoir, attendre surtout semblait d'impossibles tyrannies à son esprit en déroute. Sans doute avait-il franchi déjà les sages limites de notre sens commun. Lancé dans l'incohérence, il avait perdu sa lucidité. Il acheva de se rendre intolérable et inefficace en allant afficher lui-même sur les murs de la ville des manifestes dont nous citons un passage. Père de famille, sais-tu ce que cela veut dire d'appeler au chevet de ta femme en couche un médecin ou une sage-femme? Cela signifie que tu lui fais volontairement courir des risques mortels, si facilement évitables par les méthodes, etc. Sans doute l'eût-on dès ce moment relevé de ses fonctions, si son épuisement progressif n'avait devancé cette rigueur inutile. Bientôt, en effet, les mots qu'il prononçait n'atteignirent plus leur objet et furent le plus souvent sans portée. Son corps s'inclina dans une démarche nouvelle, saccadée. Il parut aux yeux de tous s'avancer en hésitant sur une terre inconnue. Semmelweis s'était évadé du chaud refuge de la raison, où se retranche depuis toujours la puissance énorme et fragile de notre espèce dans l'univers hostile. Il errait avec les fous, dans l'absolu. Dans ces solitudes glaciales, où nos passions n'éveillent plus d'écho, où notre cœur humain terrorisé, palpitant à se rompre sur la route du néant, n'est plus qu'un petit animal stupide et désorienté. Les tables, la lampe, ses trois chaises, la fenêtre, tous ces objets les plus neutres, les plus usuels de sa vie courante, s'entouraient d'un halo mystérieux, d'une lumière hostile. Cette phase de sa détresse mentale dura jusqu'en avril 1865. Il s'en allait par les rues chaudes et presque toujours sans chapeau. Tout le monde savait son malheur et chacun s'effaçait pour lui donner libre passage. La faculté décida de lui donner un remplaçant. Sans peine, il parut adopter cette conclusion. Mais dans le même après-midi, il fut possédé par une crise démentielle d'une intensité sans précédent. Vers 2 heures, on le vit dévaler à travers les rues, poursuivi par la meute de ses ennemis fictifs, c'est en hurlant, débraillé, qu'il parvint de la sorte jusqu'aux amphithéâtres d'anatomie de la faculté. Un cadavre était là, sur le marbre, au milieu du cours, pour une démonstration. Semmelweis, s'emparant d'un scalpel, franchit le cercle des élèves, bousculant plusieurs chaises, s'approche du marbre, incise la peau du cadavre et taille dans les tissus putrides avant qu'on ait pu l'en empêcher. Au hasard de ses impulsions, détachant les muscles par lambeaux qu'il projette au loin, il accompagne ses manœuvres d'exclamations et de phrases sans suite. Les étudiants l'ont reconnu, mais son attitude est si menaçante que personne n'ose l'interrompre. Il ne sait plus. Il reprend son scalpel et fouille avec ses doigts, en même temps qu'avec la lame, une cavité cadavérique suintante d'humeur. Par un geste plus saccadé que les autres, il se coupe. Profondément. Sa blessure saigne. Il crie, il menace. On le désarme, on l'entoure, mais il est trop tard. Comme Kolechka naguère, il vient de s'infecter mortellement. Skoda, prévenu de ce suprême malheur, prit aussitôt le chemin de Budapest, mais à peine était-il arrivé qu'il s'en retournait déjà, emmenant Semmelweis avec lui. Peut-être Skoda forma-t-il un instant le projet d'une intervention chirurgicale, mais il ne s'y arrêta point, car en arrivant à Vienne, dans la matinée du 22 juin 1865, Semmelweis fut conduit directement à l'asile d'aliénés. Il mourut là le 16 août 1865, dans la 47e année de son âge, à l'issue d'une agonie de 3 semaines. Son vieux maître gravit avec lui ses dernières marches, les plus saccagées de la vie. 20 fois le soir descendit dans cette chambre, avant que la mort n'emportât celui dont elle avait reçu l'affront précis, inoubliable. C'était à peine un homme qu'elle allait reprendre, une forme délirante, dont les contours allaient s'effaçant sous une purulence progressive. D'ailleurs, quelle victoire peut-elle attendre, la mort, dans ce lieu le plus déchu du monde? Quelqu'un lui dispute-t-il ses larves humaines, ces étrangers sournois, ces torves sourires qui rôdent tout le long du néant sur les chemins de l'asile? Les progrès de l'infection furent assez lents, assez minutieux, pour qu'aucune bataille ne lui fût épargnée sur la route du repos, lymphangite, péritonite, pleurésie. Quand ce fut le tour de la méningite, il entra dans une sorte de verbiage incessant, dans une réminiscence interminable, au cours de laquelle sa tête brisée parut se vider en longues phrases mortes. Il ne tenait plus au vivant que par l'élan formidable de son passé. Le 16 août au matin, la mort le saisit à la gorge. Il étouffa. Des senteurs putrides envahirent la chambre. Vraiment, il était temps qu'il s'en allât. Mais il s'acharna dans notre monde aussi longtemps qu'on le peut avec un cerveau impossible sur un corps en lambeaux. Il paraissait évanoui, perdu dans l'ombre, quand une dernière révolte, tout près de la fin, lui rendit la lumière et la douleur. Soudain, il se dressa sur son lit. On dut le recoucher. « Non, non !» hurla-t-il plusieurs fois. Il semble qu'il n'y eut au fond de cet être aucune indulgence pour le sort commun, pour la mort, et rien de possible en lui qu'une foi immense dans la vie. On l'entendit appeler encore « Skoda, Skoda !» qu'il n'avait pas reconnu. Il entra dans la paix à 7 heures du soir. Voici la triste histoire de Philipp Ignaz Semmelweis, né à Budapest en 1818 et mort dans cette même ville en 1865. Ce fut un très grand cœur et un grand génie médical. Il demeure sans aucun doute le précurseur clinique de l'antisepsie, car les méthodes préconisées par lui pour éviter la puerpérale sont encore et seront toujours d'actualité. Son œuvre est éternelle. Cependant, elle fut, de son époque, tout à fait méconnue. Nous avons essayé de mettre en relief un certain nombre de raisons qui nous paraissent expliquer un peu l'extraordinaire hostilité dont il fut la victime, mais on n'explique pas tout avec des faits, des idées et des mots. Il y a en plus tout ce qu'on ne sait pas et tout ce qu'on ne saura jamais. Pasteur, avec une lumière plus puissante, devait éclairer 50 ans plus tard la vérité microbienne, de façon irréfutable et totale. Quant à Semmelweis, il semble que sa découverte dépassa les forces de son génie. Ce fut peut-être la cause profonde de tous ses malheurs.
C'était Lecture à propos. Semmelweis de Louis-Ferdinand Céline. Extrait choisi, lu et présenté par André Dussolier. Réalisation, Pascal Deux. Montage et mixage, Jean-Benoît Tétu. Semmelweis, de Louis-Ferdinand Céline, est publié aux éditions Gallimard.
Après cette lecture de Semmelweis par André Dussolier, nous vous proposons d'entendre la voix de Céline dans un extrait de la série documentaire Louis-Ferdinand Céline, au fond de la nuit, de Christine Le Serre et Franck Lilin, diffusé en juillet 2019. Pour commencer, Yves Behin, psychiatre et écrivain.
J'ai un copain qui l'a rencontré, qui étudiait en médecine aussi. Et il a été le voir, il l'a reçu. Il lui a dit, oh, je vous décourage de faire de la médecine. Parce que vous savez, Céline avait une ambivalence par rapport à tout d'ailleurs. À la littérature que des fois il mettait au pinacle, et d'autres fois il disait, c'est moins que rien les écrivains, c'est des malades. S'ils n'étaient pas malades, ils n'écriraient pas. Ils seraient heureux comme tout le monde. Et puis la médecine, il la mettait également parfois au pinacle en disant « c'est la mission sacrée de l'humanité », etc. Puis à d'autres moments, il disait « c'est moins que rien ». Il aurait voulu être psychiatre, vous savez, il est médecin d'asile en province. Il avait des fantasmes comme ça. Mais il aurait pu faire de la psychiatrie, parce qu'il avait l'écoute. Puis il avait le sens de l'humain. Parce que l'espèce humaine, il est allé jusqu'au trognon. Il savait ce que c'était que le trognon de l'espèce humaine. Et c'est pas ragoûtant.
Il se présente comme un médecin de dispensaire et non pas comme un écrivain. Donc vous avez des photos dans les journaux de l'époque, les hebdomadaires comme les grands quotidiens, qui montrent un Céline entouré, par exemple, de l'équipe médicale. Donc on se demande où est la littérature dans cette affaire.
Philippe Roussin.
Et souvent en banlieue, donc au dispensaire de Clichy. Cette image en soi-même, elle est critique d'une image de la littérature. C'est l'idée qu'au fond, on n'écrit pas à partir de la littérature, qu'on écrit à partir d'autres choses, qu'on n'est pas un rentier, qu'on n'est pas un homme de lettres, bon, qu'on est un médecin. C'est-à-dire qu'il dit « je n'écris pas en gants blancs ». Donc c'est comme si la littérature, la matière littéraire, était une sorte de matière médicale, comme ça, dans laquelle on pouvait piocher, qu'on pouvait construire très matériellement.
Hein. J'avais uniquement une vocation médicale. Je regrette de l'avoir un peu négligée. Je me serais livré entièrement à la médecine. Je n'aurais pas eu tant d'ennuis. Et alors, je me suis livré à la littérature et il m'en a coûté très cher. Et je m'appelle Céline parce que c'est le nom de ma mère. Elle s'appelait Céline. Je croyais bien comme ça passer inaperçu, car je me suis aperçu par la suite qu'il est très difficile de pratiquer la médecine en même temps qu'on est écrivain. Vous passez pour un médecin farceur, pour un écrivain de fantaisie, ça rend la vie très compliquée. Et alors, au bout d'un certain temps, on a percé cette anonymat bien honnête. Et puis, en effet, alors on a mis sur la piste et je suis devenu ce bonhomme qui s'appelle Céline, d'un nom de femme, puis il m'en a coûté cher. Ça m'a toujours été une espèce de malédiction, cette affaire d'écrire.
Il dira que sa véritable vocation, c'est la médecine, c'est évidemment pas l'écriture. Ça, il le dira très souvent et c'était probablement vrai parce que je crois que Céline a été un très bon médecin.
François Gibault.
J'ai vu, malheureusement, j'ai pas pu l'acheter, une ordonnance de Céline, au lieu de dire voilà tel médicament, tel jour, combien de fois par jour, il y avait pas de tabac, pas de café, pas de vin. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'était ça l'ordonnance. Donc, il sera là, le médecin des pauvres, plus hygiéniste que médecin finalement.
Alors Céline, ben c'est une longue histoire parce qu'il n'était pas du tout dans les études où il était autodidacte. Il avait une expérience de la vie. Il a été sensible au premier cri de la vie, c'est-à-dire que il avait déjà cette espèce de pensée philosophique d'une désespérance. C'est naître qu'il n'aurait pas fallu, mais ma mère a voulu que je vive. Et quand il extrayait l'enfant, il disait, il va être plongé dans le malheur. Mais c'est merveilleux quand même que la femme fabrique un enfant. Donc il est à la fois touché, ému, mais il va pas s'orienter vers l'obstétrique. Il va prendre conscience de la mission un peu sacrée de la médecine.
J'ai écrit une thèse qui s'appelle « La vie et l'œuvre de Philippe Ignace Semmelweis » et qui est en somme un peu littéraire. Elle peut être considérée comme un premier roman, si l'on veut dire. Alors, c'est un roman médical, strictement médical, et scientifique pour une partie. Voilà.
À l'époque, tous les étudiants faisaient des tests scientifiques sur une maladie, sur un microbe, sur je ne sais quoi. Et là, Céline, parmi les premiers, il y en a beaucoup maintenant, a fait une thèse littéraire. Alors, une thèse littéraire qui est absolument à son image, puisqu'il a choisi de parler de la vie et de l'œuvre de Philipp Ignace Semmelweis, qui est un savant hongrois, victime de la science en quelque sorte. Alors là, le livre est admirable, alors c'est vraiment un livre d'écrivain. Quand on me dit par quel livre commencer à lire Céline, je dis commencez Semmelweis, vous allez voir, c'est un livre classique, dans lequel vous allez trouver tout l'humanisme de Céline, son côté médecin, son côté scientifique et la défense d'un homme qui était un grand savant et qui a été en tout cas un véritable martyr de la science au XIXe siècle.
Il a écrit une thèse que je trouve magnifique, parce que c'est une vraie fresque. Il a un ton hugolien, Céline, qui montre à quel point il possédait la langue française, avant de la subvertir. Et il a écrit sa thèse avec une ferveur énorme, une identification à Semmelweis, c'est-à-dire à travers Semmelweis, l'humanité de Semmelweis, la compassion de Semmelweis, et les femmes. La fin de la thèse est consacrée à la femme. C'est magnifique ce qu'il dit des femmes, qu'elles vont changer le monde.